À Sambo, il est 13h même heure à Kakamangoulou et dans le studio de Radio Ndekeluka, nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée, une présentation de Karine Estelle Wegbe. Karine, bonjour.
Bonjour Ghislain Dina Kongwita, bonjour à tous. À la une de cette édition de la mi-journée, dernière ligne droite pour le dialogue gouvernement et groupes armés à Khartoum au Soudan. La dernière vague des participants a quitté Bangui ce matin pour la capitale soudanaise. Coup de gueule de l'opposant Joseph Bendunga au président Faustin Archange Touadéra. Le président du MDRC lance un ultimatum de 3 mois au chef de l'État afin de redresser la situation du pays. Précision dans ce journal. Au sommaire également, ce bilan à mi-parcours du grand DDRR lancé dans l'Ouampendé. Plus d'une centaine d'armes de guerre, des munitions et des effets militaires ont été collectés. En football, démarrage des demi-finales de la Coupe Siriri na Yengo Terre dans le 3e arrondissement de Bangui. Cet après-midi, FC Bibale, FC Dombia et JSCO RCD sur le terrain Sagbado. Dialogue entre le gouvernement et les groupes armés à Khartoum. La dernière vague des participants à cette rencontre a quitté Bangui ce matin. Les délégations des chefs des groupes armés, mais aussi les représentants du gouvernement sont arrivés dans la capitale soudanaise depuis hier. Près d'une centaine de personnalités sont conviées à ces pourparlers. La délégation gouvernementale est conduite par Firmin Gribada, directeur de cabinet du chef de l'État. Sur la liste des participants publiée par l'Union africaine, quelques représentants de la société civile sont aussi invités, seulement que jusqu'à présent, on ne dispose pas encore d'un calendrier détaillant le délai et les modalités des discussions.
Entre-temps, l'opposant centrafricain Joseph Bendunga est président du MDREC, lance un ultimatum de 3 mois au président Faustin Archange Touadéra.
Joseph Bendunga donne jusqu'au 30 mars prochain au chef de l'État de redresser la situation du pays et de sécuriser les centrafricains, faute de quoi il saisira la haute cour de justice pour haute trahison. Pour le président du MDRC, Faustin Archange Touadéra n'a tenu à aucune de ses promesses électorales depuis sa prestation de serment le 30 mars 2016. Joseph Bendunga au micro de Jean-Fernand Kouina.
C'est dire à Touadéra, vous avez une première chose, redresser la barre, se rattraper, parce que il n'est jamais tard pour mieux faire. Et cet ultimatum-là se fera en 4 étapes. La première étape tombe maintenant, c'est sa profession de foi que nous allons développer jusqu'au 30 mars. S'il ne redresse pas la barre, tellement il a violé la Constitution, que cette fois-ci, au moins que la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, nos députés puissent s'assumer. S'il ne démissionne pas, s'il ne redresse pas la barre et qu'il ne démissionne pas, il doit être démis. Parce que la légitimité que lui confère la Constitution à travers son élection, c'est pas un chèque en blanc. Il laisse tuer les Centrafricains sans les protéger, s'il n'a pas la capacité de le faire. Mais pourquoi postuler pour être président de la République? Ça, c'est de la haute trahison. C'est un crime imprescriptible. C'est la violation de son serment.
Mais la démocratie veut que vous respectez son mandat jusqu'à la fin.
La démocratie ne dit pas ça. Référez-vous à la Constitution de la République centrafricaine.
Eh bien, c'était Joseph Bendunga, président du MDRC sur Radio Ndekeluka.
L'actualité, c'est aussi ce bilan à mi-parcours des opérations du Grand DDRR menées fin décembre et début janvier 2019 dans la préfecture de l'Ouampendé.
Plusieurs dizaines d'éléments des groupes armés désarmés volontairement, plus d'une centaine d'armes collectées, des munitions et autres engins explosifs restitués. Selon Samuel Toitena, chargé de mission en matière des opérations à l'unité d'exécution du programme national du DDRR, le résultat est très satisfaisant du fait de la mobilisation des hommes armés. Il déplore cependant le retard accusé sur la sensibilisation des ex-combattants avant ce processus. Samuel Toitena, interrogé par Constantin Josias Ngoutendi.
Je suis satisfait parce que dans la programmation de ce qu'on a retenu pour le Pawa et les zones périphériques, on avait pensé désarmer, démobiliser 150 éléments, c'est ça qui a été prévu. Mais en conclusion, nous avons presque atteint cet effectif. Je suis vraiment très satisfait du résultat que les deux équipes ont obtenu. Que lorsque les équipes étaient sur le terrain, il y avait le problème de sensibilisation qui se posait. Les équipes étaient parties pour le désarmement et non pour la sensibilisation. On était obligés de faire la sensibilisation.
C'était Samuel Toitena, chargé des missions en matière des opérations à l'unité d'exécution du programme national du DDRR.
Restons toujours dans l'Ouampendi où l'accès à l'information et au réseau téléphonique mobile reste un défi pour les habitants de la commune de Mom dans la sous-préfecture de Paoua.
En l'absence de ces moyens de communication, ces personnes se sentent isolées du reste du pays. Certains témoignent que pour rejoindre leurs parents, ils sont souvent obligés de se rendre à Bozoum, à 75 km de leur localité. Ces habitants dénoncent cette situation et demandent le désenclavement de leur commune. Un habitant exaspéré s'exprime au micro de Constantin Josias Ngoutendi de passage dans la région.
T'allais pour aller dans la commune Malé, ça fait presque 60 km. Et t'allais pour aller vers Bavara jusqu'au niveau de Garba, ça fait à moins 70-75 km. Et t'allais Paoua, ça fait 75 km. T'allais Bozoum, c'est 45 km. Imaginez, même si vous êtes là, vous ne pouvez même pas appeler Paoua. Et s'il y a un cas d'accident, même si vous avez eu le panne sèche ici, comment vous allez faire pour avoir quand même le carburant? On souffre. Même un cas de maladie qui est un peu grave, vraiment pour appeler au niveau de l'hôpital, peut-être si on peut affecter une ambulance pour venir secourir quand même les patients, c'est un peu difficile. Donc vraiment, nous souhaitons avoir les réseaux téléphoniques ici à Talais. Ça va nous aider beaucoup.
Capturée à Loki dans l'Ombelapoko avec cette difficile condition de vie des femmes.
Elles se disent confrontées à toutes sortes de maux qui les gangrènent au quotidien. Ces femmes demandent au gouvernement de tout mettre en œuvre pour les appuyer et assurer leur sécurité. Reportage de Armando Yangendi de passage dans la localité.
La ville de Yaloki est située à 225 km de la capitale sur l'axe Bongi-Beloko. Yaloki est reconnue comme une ville minière où l'exploitation de l'or et des diamants se pratique. Ici, les femmes se plaignent. Elles manquent de tout pour subvenir à leurs besoins. Pierrette est vendeuse de pâtes d'arachide.
Nous souffrons pour rien. Avec notre commerce, il y a de la mi-vente. Les prix sont exorbitants. Il n'y a pas d'argent. La viande est chère. Un kilo se vend à 1000 contre 500 il y a 2 ans. Les éleveurs ne sont plus là. Après cette crise, on a fui et on a perdu tous nos biens.
La situation est déplorable. Les femmes appellent le gouvernement à plus d'actions concrètes en leur faveur et surtout leur assurer la paix pour un retour à la normale. Rosalie Wedembali, ménagère.
Le gouvernement doit veiller sur nous, le peuple. Nous voulons tout simplement la paix. Et surtout nous, les vieilles mamans. Il faut nous envoyer des agents de sécurité. On est fatigués. Comme ça, nous allons vaquer librement à nos occupations. C'est la réflexion de nos biens perdus qui nous mine et les maladies nous rongent. Vraiment, c'est difficile pour nous.
La ville de Yaloki n'a pas été épargnée par la crise militaro-politique de 2013. Les effets de cette crise y sont visibles. Armando Nguindi, de retour de Yaloki, Radio Ndiki Luka.
Merci à vous, Armando.
De Yaloki, nous nous rendons à Bangassou pour parler de la fin des travaux d'assainissement de la ville par le projet Londo.
250 bénéficiaires ont été récompensés le week-end dernier. Correspondance de Jean Balipio à Bangassou.
Les bénéficiaires ont reçu en guise de récompense des vélos plus une enveloppe dont on ignore les montants durant cette deuxième phase. 36 km de route entretenue dans la localité. Cela s'inscrit dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Un des bénéficiaires que nous avons interrogé se dit satisfait et remercie Projet Londo pour son initiative car selon eux, cela vient à point nommé alléger leur souffrance sur le plan socio-économique. Précisons que la ville de Bangassou qui était perdue dans la broussaille a trouvé sa beauté comme dans son. La population apprécie à sa juste valeur la qualité du travail abattu par le projet Londo. Rappelons que c'est la deuxième fois que le projet Londo est créé dans la région. Jean Balipio Bangassou, Radio Ndekeloka.
De Bangassou plutôt, rendons-nous à Mbaïki. C'est l'ONG Échelle qui se préoccupe du développement de la commune de Mbata.
Elle a organisé du 18 au 21 janvier une session de restitution du programme de développement de la commune de Mbata sur une période de 10 ans. On en parle avec Michel Martial Bobouya.
C'est un document de 135 pages. Il constitue la formulation de la vision de la commune. Le coût de ce plan de développement local s'élève à plus d'1,5 milliard. Selon Bruno Charbonnier et Serge Alain Magbé, respectivement chef de composante développement local au projet PDRSO et secrétaire général exécutif de l'ONG Échelle. Cet atelier vise à prévalider et prioriser les actions triennales de la commune. L'autonomisation des communes constitue la base du développement, ont-ils conclu. Arthur Amboukama, membre de la délégation spéciale représentant le président de la délégation spéciale de la commune de Mbata, a remercié l'Agence française de développement et l'ONG Échelle pour avoir appuyé la commune durant le processus, notant que deux ateliers sont prévus à Pissa et Mungumba dans les jours à venir en vue de prévalider les drafts des plans de développement local de ces communes. Michel Martial Boboya, de retour de Mbata, Radio Ndekeluka.
Actualité hors de nos frontières avec cette nouvelle grogne des étudiants N'Djamena au Tchad.
Les étudiants tchadiens protestent contre la fermeture des inscriptions à l'université de N'Djamena pour l'année 2017-2018. Jusque-là, il était possible pour des étudiants de payer leurs frais d'inscription un an après la fin de l'année d'études. Le rectorat a décidé de réduire ce délai et les étudiants qui n'avaient pas pu payer les frais d'inscription, notamment en raison de la coupe de leur bourse d'études décidée par le gouvernement dans le cadre des mesures d'austérité se voient redoublées d'office.
Et puis l'Union africaine et l'Union européenne réunies les 21 et 22 janvier à Bruxelles pour une réunion largement consacrée au partenariat de l'Union africaine et l'Union européenne, mais aussi à la situation en République démocratique du Congo.
Effectivement, Ghislain, la République démocratique du Congo se prépare à l'investiture de son nouveau président Félix Tshisekedi. Les représentants de l'Union africaine sont revenus sur le sujet à la fin des travaux. Richard Sezi Ibira, ministre rwandais des Affaires étrangères et président du Conseil exécutif de l'Union africaine, a précisé que l'organisation a pris bonne note du fait que les institutions officielles ont dévoilé le nom du vainqueur final du scrutin. L'Union africaine reste disposée à travailler avec le peuple congolais pour l'aider à surmonter les défis qui pourraient subsister à l'aube de ce nouveau contexte politique. La page sport. Et c'est avec vous, Henri Juvenal, Kouérépédé, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
En football, démarrage des demi-finales de la Coupe Siririna Yingo Terrain sur le terrain Sagbado dans le 3e arrondissement de Bangui.
Aujourd'hui, à 15h, FC Bibalé sera opposé à FC Dombia le jour d'après. À 15h30, Jisco en découdra avec RCD. La finale est prévue le dimanche prochain.
Pendant ce temps, la troisième journée du championnat de la Sous-Ligue du Catex débute cet après-midi dans le 8e arrondissement de Bangui.
Deux rencontres au programme à 14h. Chaud d'explication entre Réveil des Sinistrés et FC Miracle. À 16h, les FC Intime va croiser le fer avec Combattant Sport.
Football encore, poursuite cet après-midi des éliminatoires de la Sous-Ligue de Bouirab sur le terrain de Ndresse 2.
À 15h, FC Karting en découdra avec les 5 bâtiments. Demain, duel entre AS Dynamo et FC Konami. Hier, FC Lyon a battu AJRB 4-0.
Football toujours poursuit des éliminatoires du tournoi interquartier dans le 6e arrondissement de Bangui. Un tournoi sponsorisé par le député Tosa Binza.
Bétene 2 jouera contre Mandiaoto à 15h sur le terrain de la JPN. Et au même moment, l'équipe de 92 logements sera opposée à celle de Zoubé sur le terrain de Maya Maya.
À l'international juvénile, finale fin aujourd'hui du 82e congrès de l'Association internationale de la presse sportive à Lausanne en Suisse.
Deux représentants centrafricains y prennent part. Les travaux qui prennent fin aujourd'hui ont débuté hier. Fridolin Wambombo et Bienvenue Bello, notamment président et secrétaire général de l'Association nationale des journalistes sportifs centrafricains, en abrégé ANJISCA, représente la RCA à ses assises. En prélude à ses assises, la soirée Media Award IPS a eu lieu le lundi dernier.
Parlons du volleyball. Le club BAC se prépare pour deux compétitions au mois de février. La date de ces deux compétitions ne sont pas encore fixées.
Le champion de la République centrafricaine s'entraîne tous les mardis et jeudis au stade municipal de Bangui pour les éliminatoires des clubs champions de la zone 4 à Brazzaville et pour un tournoi de beach volley à Malabo en Guinée équatoriale. Sims Jobert Moëlé, l'un des joueurs de cette équipe, nous parle des conditions dans lesquelles il s'entraîne.
Pour un début, c'était pas facile. Mais avec les moyens que le coach nous donne là, pour un début, ça marche quand même. On essaie déjà faire, premièrement, le travail physique, deuxièmement, sur les techniques de jeu. Je préfère ce que nous puissions participer à cette compétition qui va se dérouler à Brazzaville.
Sims Jobert Mouélé était à votre micro Juvénal à l'international. Les recherches ont repris mercredi 23 janvier au-dessus de la Manche pour tenter de retrouver l'avion de tourisme porté disparu lundi soir avec à son bord le footballeur italo-argentin Emiliano Sala, l'avant-centre de FC Nantes en France.
L'avion qui transportait le joueur de 28 ans sur le trajet Nantes-Cardiff a disparu des radars lundi soir vers 20h temps universel à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île anglo-normande de Guesney. Auteur de 12 buts sur la moitié de saison en Ligue 1, il venait d'être transféré contre une somme estimée par la presse à 17 millions d'euros, un record pour le club gallois de Cardiff évoluant en première division anglaise.
Merci Juvénal, voilà tout pour ce journal en français. À tous, merci d'avoir été des nôtres. La version Sango, c'est juste après cette courte pause. Restez des nôtres.